C'est le banquet, écoute-moi, le banquet de Saint.
Rue des Granges, pas de
Rue des Majots, le rendez-vous de la Maison du Théâtre. Un programme non essentiel, une émission contagieuse. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Dussart, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie L'Arcade, pour parler de sa dernière création, Ma forêt fantôme, de Denis Lachaud, paru aux éditions Actes Sud. Tout de suite, un extrait.
1980. L'hécatombe commence en Californie et à New York. 1981. Premier cas en France. 1982. On lit tout ce qu'on peut dans la presse, c'est-à-dire pas grand-chose. Il parle de mystérieux cancers chez les homosexuels américains, de gay syndrome. L'été voit naître le sigle AIDS. Les Français traduisent. Sida. William ouvre la brèche. Mon vieux copain William Robertson, américain vivant à Paris depuis plus de 15 ans. Il nous apprend qu'il est malade en septembre 82 et meurt 3 mois plus tard. Pneumocystose doublée d'un Kaposi agressif. Suivi de près en 83 par Igor, Brad à Los Angeles et Philippe Peuzeau, rencontré sur les bancs de la fac. 1m88 dans les 80 kilos. Philippe a voulu croire qu'il suffisait de suer beaucoup, de travailler son corps du matin au soir pour fatiguer le termite. C'était encore le début. Il a des excuses. Quelques jours après l'enterrement de Philippe, Montagnier annonce qu'il a découvert le virus. Je suis sûr d'avoir mon ticket. Il faut surveiller les fièvres, diarrhées, sueurs nocturnes, le gonflement anormal des ganglions. Sinon, aucun moyen de savoir. Il n'y a pas encore de test. Je me tâte. Je prends ma température. J'ai constamment l'impression que mes ganglions sont plus gros que la veille. Je coupe le chauffage pour voir si je transpire la nuit. Nicolas se moque de moi. Ça ne l'inquiétait pas, Nicolas. Le sida. Pas encore. Je rencontre Nicolas en janvier 83, un mois après m'être rendu pour la première fois au Père Lachaise pour William. Dans son entourage, personne n'a encore été touché. Igor meurt, je reçois le faire-part pour Brad, Philippe tousse et maigrit à vue d'œil, Nicolas redescend sur terre. 1984, on enterre Michel, Sam, Akira le japonais, Aki le finlandais, mais aussi Étienne et Wilson, deux amis de Nicolas. 1985, Pascal, Salah, Louis, Knud, Nicole, première femme sur ma liste, François, Lasseux, Constantin, Augustin, Antoine et Jean-Christophe. 11. Avec Jean-Christophe, ça fait 11. À ce rythme-là, l'an prochain, c'est 20. Le test ELISA est commercialisé, je décide de le passer dès que possible et ça tombe. Séropositif, tu l'as. Ton compte est bon. Regarde dans ton dos, il y a une barrière, tu l'as sauté. Tu n'auras jamais 50 ans. Pourquoi moi ? Je cède aux questions sans réponse, une boule de neige qui grossit, grossit. Ça m'occupe pendant plusieurs mois. 85, encore. Je ne descends pas très souvent voir Suzanne et Paul, ma sœur et son mari. Ma dépression m'occupe à plein temps. Nicolas ne veut pas passer le test. À quoi bon, dit-il. 1986, ça va un peu mieux. J'ai des hauts et des bas, je sors du trou en prenant conscience d'une chose. Je ne regrette rien. J'ai vécu à fond, j'ai pris mon pied comme un fou. Je me revois en train de rire tout seul dans un avion entre New York et San Francisco. Je ne me lassais pas de penser à la chance que j'avais d'avoir 30 ans en 75. Par contre, je redeviens chiant dès qu'on approche des résultats de mon examen sanguin. Je ne supporte plus rien, ni personne. De saison en saison, nous regardons mourir les autres. La moitié de mon carnet d'adresses y passe. Oh, qu'est-ce que je dis, la moitié ? Plus de la moitié. De tous les gars que j'ai rencontrés entre 65 et 80, il ne reste plus que... Oh, ça se compte sur les doigts d'une main. Rendez-vous au crématorium du Père Lachaise. Les amis, les têtes connues, les uns tentant de réconforter les autres, certains moins valides d'une cérémonie à l'autre, quelques nouveaux, et au centre du drame, la famille, changeant à chaque fois, plus ou moins agacée par le nuage de PD, beaucoup d'indifférents à ce qui dépasse leur malheur personnel, quelque solidaire. Après chaque cérémonie, je me penche sur mon carnet, y cherche le nom du quidam fraîchement disparu, y appose sa date de naissance et l'année de son décès avant de rayer le tout au crayon à papier. Parfois, j'obtiens une page pleine de cases rayées, une page totale, remplie de ratures. J'ai fini la page. Comme autant des cahiers à remplir par les mouflets avec les photos des footballeurs, les échanges d'images dans la cour de récréation. Et tu me passes un Platini et je te file un machin truc. Hey, Bruno, regarde, j'ai fini une page. Hey, monsieur Codel, j'ai fini une page. Encore mieux. Les deux pages en vis-à-vis. Un must. Et qu'est-ce qui nous aura, nous ? Qu'est-ce qui va nous abattre ? La pneumocystose ? Le sarcome de Kaposi ? La toxoplasmose cérébrale ? La leucoencéphalite ? Le lymphome non-Hodgkinien ? La cryptococcose généralisée ? Une cause indéterminée ? Il y a la phrase qui commence par « pourquoi ?» qui est une question, parce qu'elle commence par « pourquoi ?» mais qui au fond n'est pas une question. Pourquoi ? Être encore là, quand tout le monde est resté en rade. Au mieux, c'est une question sans réponse. Moi, je ne le sens pas comme ça. Je réponds par hasard. Mon corps sait se servir des médicaments. Et par chance. Dès que je recommençais à aller mal, un nouveau produit arrivait sur le marché et je repartais comme en 40.
Nous venons d'entendre un extrait de « Ma forêt fantôme » de Denis Lachaud, paru aux éditions Actes Sud, lu par Vincent Dussart, metteur en scène de la compagnie L'Arcade. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Nous t'accueillons aujourd'hui pour parler de ton dernier spectacle, donc « Ma forêt fantôme », que tu as créé en novembre dernier devant des professionnels à Soissons. Il devait être joué en mars 2021 à la Maison du Théâtre à Amiens, où il sera reporté le 12 octobre prochain. Vincent, tu diriges la compagnie de l'Arcade depuis sa création en 1993 ?
Oui, on a été... effectivement, la compagnie a été créée en 1993. J'étais d'abord seul et puis ensuite, on a été metteur en scène associé avec Agnès Renaud pendant 15 ans. Et on s'est séparés il y a 6 ans maintenant pour chacun développer un travail plus singulier. Et donc, depuis 2015, je suis seul à la direction de l'Arcade.
Tu es actuellement en résidence au MAI, la scène culturelle de Soissons. Mm-hmm. Tes dernières mises en scène sont « Sous la glace » de Falk Richter, « Pulvérisé » d'Alexandra Badea, que nous avons accueilli à la Maison du Théâtre en 2017.
Tout à fait.
Je ne marcherai plus dans les traces de tes pas », toujours d'Alexandra Badea. Notons que cette dernière pièce, ainsi que Ma forêt fantôme, font partie d'un cycle de création intitulé Les fantômes de l'intime. Par ailleurs, tu t'es formé à la psychanalyse, sans dévoiler, mais...
Oui, pas à la psychanalyse, mais à la psychothérapie, oui.
À la psychothérapie, tu exerces,
oui.
Psychothérapeute. Alors, est-ce que ce cycle, Les fantômes de l'intime... a été influencé par cette activité ?
Je dirais plutôt que c'est mon activité de metteur en scène et plus largement d'artiste qui m'a amené à m'intéresser à la psychanalyse et à la psychothérapie. Donc je ne sais pas ce qui nourrit, quel est le métier qui nourrit l'autre, mais il y a pour moi des vrais liens, pas tant sur le rapport au public, puisque... on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, mais effectivement, je me questionne beaucoup sur ce qu'on porte de façon inconsciente des grands traumatismes sociétaux ou familiaux. Et donc, c'est un sigle qui se propose d'interroger ça, de la manière dont on est agi, de façon absolument pas pensée, par des événements traumatiques vécus par la société ou, dans le domaine plus intime, au sein de nos familles.
Mmh. Alors, le propos de la pièce. Jean et Suzanne sont frères et sœurs. Ils ont la soixantaine. Deux morts ne cessent d'être présentes dans leur mémoire. Paul, le mari de Suzanne, dont elle apprend à faire son deuil, qui vient de mourir de la maladie d'Alzheimer. Et Nicolas, le compagnon de Jean, mort du sida quelques années plus tôt. À travers ce spectacle, tu interroges la mémoire collective. Quelles sont les traces laissées par cette pandémie, selon toi, dans la mémoire collective ?
Ben, je pense que c'est justement difficile de répondre à cette question-là, et le spectacle est là pour interroger ça. En tout cas, ce qui m'apparaît, c'est que cette génération sacrifiée, 35 millions de morts hein, quand même, aujourd'hui c'est encore 700 000 morts par an. Ça a forcément impacté notre rapport à l'autre, au-delà du rapport sexuel, notre rapport à l'autre, comment l'autre peut être dangereux pour nous, comment le rapport amoureux aujourd'hui encore est marqué par ce danger potentiel. Et puis ensuite, c'était une population particulière, qui, tout au moins au début de la pandémie, qui était touchée par ce virus. Et ça, toute cette période-là qu'on vit actuellement, en tout cas au début, beaucoup, ça m'a... J'étais en plus en répétition à ce moment-là avec Ma forêt fantôme. Donc j'étais très chargé de cette histoire. Et puis le traitement médiatique qui a été fait au tout début de la pandémie du sida n'a aucune commune mesure avec le traitement médiatique qui a été fait de la pandémie qu'on vit actuellement. Et je me suis beaucoup interrogé. Alors forcément, il y avait quelque chose de l'ordre... voilà, ce n'était pas tout un chacun qui était touché au début, c'était les homosexuels. Hein, ce fameux cancer gay dont parle Denis là, dans ce récit. Donc, ce n'était pas très important. Et puis finalement, est-ce qu'il n'avait pas cherché un peu à coucher à droite, à gauche, comme ça ? Donc, je l'explique par ça, mais pas que. C'est-à-dire que les modes de transmission ne sont évidemment pas les mêmes avec le coronavirus. Mais pourquoi ? Il y a une telle mise sous silence de ces millions de morts et comment cette chose-là, elle est toujours active en nous parce qu'on n'a pas pu faire notre travail de deuil collectif. Et le travail de deuil, c'est finalement d'aller réussir à mettre de la pensée sur ce qui nous est arrivé. Et je pense que ça n'est toujours pas fait et que c'est toujours actif. Et lorsque je rencontre des jeunes, parce qu'on a quand même eu le temps de faire des rencontres au moment des répétitions, avec des jeunes, je suis surpris de voir qu'ils découvrent des choses aujourd'hui de cette maladie, des possibilités de contamination actuelles. Vous savez que, par exemple, le taux de séropositivité augmente chez les jeunes actuellement. Et il y a une grande partie de la jeunesse qui ne se teste pas. Donc, tant qu'on n'est pas testé, on ne peut pas être pris en charge et on reste contagieux et on continue à se mettre en danger.
Donc à la fois un travail pour entamer ce travail de mémoire collective mm-hmm. qui nécessite du temps, mm-hmm. tu dis, et puis aussi un travail autour de l'urgence peut-être. Enfin, c'est vrai que ce spectacle, c'est aussi une évocation d'être aimé, d'être que l'on a aimé, mm-hmm. De la vie, de ses passions, de ses plaisirs, de ses violences aussi.
Oui.
Et c'est aussi célébrer la joie de vivre, d'être en vie et l'urgence à vivre.
Peut-être. Oui, 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 foncièrement, c'est un spectacle, je crois, autour de la consolation, de ce qui a besoin en nous d'être consolé pour pouvoir être pleinement vivant, quoi. Donc oui, ça célèbre tout ça, ça célèbre aussi bien, l'amour de l'autre, le réconfort et la consolation que l'autre peut nous apporter. Je pense tout d'un coup à un texte de Stieg Dagerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », qui parle de ça aussi, comment l'autre est la source de notre consolation et donc de l'espace possible pour faire émerger la joie d'être vivant.
Vincent, en préparant cette émission, nous t'avons demandé une musique que tu souhaiterais passer à l'antenne. Qu'as-tu choisi ?
Alors, je vous propose d'écouter « I Feel Love » de Donna Summer. D'abord, c'est une des musiques du spectacle, « Ma forêt fantôme ». Et puis, enfin voilà, « I Feel Love », quoi.
Vincent, en préparant cette émission, nous t'avons demandé un texte que tu aimerais partager avec les auditeurs de Radio Campus. Ton choix s'est porté sur le paradoxe de Robinson de François Flahau.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots avant de nous en lire un extrait ?
Alors donc, François Flahau est un philosophe, chercheur au CNRS. Et donc, ce texte s'appelle « Le paradoxe de Robinson ». Et il est sous-titré « Capitalisme et société ». Ça fait partie... Alors moi, j'ai rencontré l'écriture de François Flahau avec un autre texte qui s'appelle « Sentiment d'exister, ce soi qui ne va pas de soi ». Voilà. Qui est un texte aussi avec le paradoxe de Robinson, qui est un texte qui a été extrêmement révélateur pour moi. C'est-à-dire que je lisais le texte et j'avais l'impression qu'on parlait de moi. Qu'on parlait, voilà, vous allez voir, ça parle essentiellement de comment se construit le sentiment d'exister. Et voilà, ça fait partie de ces textes très lumineux. Tout d'un coup, on se dit, mais c'est moi, en fait, il parle de moi. Et c'est très révélateur, très constructeur. Et bien sûr, ça permet de s'interroger profondément sur soi-même. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce texte-là. L'être humain ne saurait accéder à lui-même que dans un monde commun, un ensemble de biens collectifs, langage, représentation, institution, organisation de l'espace et du temps, manière de faire et d'être, bref, une culture, laquelle constitue pour chacun un milieu vital. Pour les êtres humains comme pour les singes, la vie en société fait partie de leur constitution. Elle est leur être naturel. Elle n'est pas moyen au service d'une fin. Elle est une fin en soi. Dire que les hommes se sont organisés en société afin de produire des biens est donc aussi absurde que de dire qu'ils ont des pieds afin de porter des chaussettes. C'est parce que nous avons des pieds que nous portons des chaussettes. Et c'est parce que nous vivons en société que nous produisions des biens. Rousseau se plaisait à croire que l'enfant pouvait et devait se développer durant les premières années de sa vie, tel Robinson Crusoe, sur la base d'un rapport naturel aux choses, sans lien avec la société, et n'entrer en relation avec les autres que dans un second temps. Nous allons voir que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Le bébé devient une personne dans et par ses relations avec d'autres personnes qui elles-mêmes vivent en société. Et cette base, ce cadre, est la condition nécessaire pour que se développe son rapport aux choses. La première condition pour qu'un bébé devienne une personne est que ses parents le considèrent comme tel, et cela avant même qu'il naisse. Cette reconnaissance est symbolisée par le nom propre donné à l'enfant. Le fait d'être une personne, une conscience de soi qui jouit d'un droit d'exister à part entière, résulte d'une coopération entre reproduction biologique et transmission culturelle. Il ne suffit pas pour que nous existions que notre organisme vienne au monde, et reçoive les soins dont il a besoin pour se développer. Il faut également que nous existions dans l'esprit de nos parents, en tant que personne humaine. L'inscription symbolique de notre personne dans leur esprit précède notre existence réelle et en est la condition. Il faut, en d'autres termes, que nous ayons lieu d'être, au sens littéral de l'expression. Et ce lieu d'être est une nouvelle place instituée par nos parents et par la société.
Nous venons d'entendre un extrait du Paradoxe de Robinson de François Flahaut. C'était notre émission Rue des Majots, avec Vincent Dussard, metteur en scène de Ma Forêt Fantôme, à découvrir la saison prochaine dans la programmation de la Maison du Théâtre à Amiens. Merci Vincent.
Merci à vous.
Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus. Nous nous retrouverons dans 15 jours. D'ici là, bonne lecture. Ain't got no money, ain't got no class.